Bonjour à toutes et à tous et merci pour cette invitation à cet atelier du réseau ACDD. Voilà, donc la présentation d'aujourd'hui qu'on fera à deux repose en fait sur une recherche en cours sur les déplacements domicile-travail entre la France et le Luxembourg. Donc, j'insiste, c'est une recherche en cours et vous verrez au fur et à mesure pourquoi. Je précise aussi que cette recherche, elle est menée en collaboration avec le LISER, qui est un laboratoire luxembourgeois, et avec un de ses chercheurs, Philippe Gerber. Alors, la première chose, c'est comment greffer cette recherche à la question de transition et surtout quelle orientation donner à la notion de transition. Une transition, il faut qu'elle vienne de quelque part ou elle va quelque part. Enfin, donc en fait, et notamment pour faire peut-être lien toute la journée, je vais l'adosser à la question de la transition écologique aussi, puisqu'il est question de distance et derrière la notion de distance des navettes quotidiennes. Il y a aussi des questions finalement écologiques et de développement durable qui apparaissent. Donc, et du coup, ça me permet d'inscrire le propos ici dans le sillon des idées selon lesquelles finalement les transitions écologiques ne peuvent pas se faire sans une transformation ou au moins la prise en compte des rapports sociaux. Et pour ça, je vais l'illustrer en introduction, avant que Janou nous présente des résultats et des interprétations de nos analyses. Je vais l'illustrer à partir d'un point d'actualité pour commencer, à partir des recherches sur les mobilités quotidiennes et aussi à partir de celles sur les processus de métropolisation. Il me semble que toutes les trois convergent vers un même point aveugle qui serait intéressant de discuter ici. Alors, sur cette transition qui nous semble ne pas pouvoir se penser sans tenir compte des rapports sociaux, tout d'abord, c'est le fait que ce n'est pas simplement une simple accumulation de comportements individuels, environnementaux ou un passage en force ou des incitations à certaines bonnes pratiques entre guillemets qui vont régler nos questions écologiques auxquelles les sociétés sont actuellement confrontées. Prenons tout simplement l'exemple des études sur les leviers de changement modal, donc les leviers de changement de mode de déplacement pour passer de l'automobile au transport en commun. Qui ont en fait débuté au milieu des années 70. Hein, en tout cas, les recherches et puis le discours politique étaient dès les années 70 fortement orientés là-dessus. Dans la recherche, on les trouve en géographie, en sociologie, dans les ingénieurs du trafic, etc. En fait, si on regarde un petit peu leur histoire maintenant sur une quarantaine d'années, ce n'est pas tant les incitations à l'usage des TC qui en ont découlé, des transports en commun, pardon, qui en ont découlé, qui ont permis d'observer ces dernières années un relatif abandon de l'automobile, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a quand même une fraction de la population qui est plutôt très urbaine, très diplômée, avec des emplois stables, qui s'éloigne de l'automobile. En fait, cette mise à distance de l'automobile est surtout liée à une sorte, on pourrait appeler ça d'un point de vue sociologique, à une présentation de soi qui est payante, hein, auprès des autres, hein, pour de multiples raisons. Donc, cette fraction de citadins ne prend de la distance avec l'automobile qu'à partir du moment où elle peut le valoriser en fait dans ses rapports sociaux. Autrement dit, envisager et prendre de la distance avec l'automobile au quotidien n'est pas qu'une question juste de compétences, de savoir-faire, mais à la fois une question de ressources sociales et de situation, que ce soit en termes d'espace, de temps, d'argent, de manière de faire envisageable. Et la manière de faire que l'on est capable d'envisager est finalement quelque chose souvent de très important aussi. Alors, Le point d'actualité, pour le coup, qui me semble intéressant. Actuellement, il y a une polémique sur le prix du carburant. Et que montre finalement cette polémique? Elle montre clairement que ce coût du déplacement s'inscrit dans des rapports sociaux finalement. Un rapport à l'État à propos des taxations, un rapport aux distributeurs et à l'industrie pétrolière avec la question des marges commerciales, un rapport aux politiques environnementales avec un affichage de type pro-environnemental qui serait annoncé antérieurement, un rapport au travail. Et les inégalités de coûts pour accéder à ce travail, etc. On voit bien qu'il y a plein de dimensions qui sont ici convoquées finalement plus ou moins explicitement. Mais si la polémique repose pour l'essentiel sur la dimension économique des problèmes, c'est un peu normal puisque c'est elle en fait qui l'a fait émerger. Les dimensions touchées par cette polémique sont loin d'être uniquement économiques. En revanche, la prégnance du modèle économique incite à envisager la question, du coup, plutôt comme un besoin à réduire ce problème du déplacement à juste la notion de besoin. Un besoin de se déplacer, hein, qui va se décliner ensuite en besoin de travailler, besoin de réduire des coûts élevés de déplacement, besoin d'égalité sociale, besoin de moins polluer, etc., etc. Donc, nous sommes loin de cette situation des années 70 où, quand on parlait de faire des économies sur l'énergie fossile, il y avait une sorte de convergence très importante des questionnements sur la notion d'économie d'énergie. Il faut dire qu'à cette époque-là, l'écologie politique n'était pas aussi présente dans la scène politique. Donc du coup, la proposition du président de la République d'aider ceux qui travaillent et qui ne peuvent pas faire autrement que d'utiliser leur véhicule pour se rendre sur les lieux est particulièrement intéressante sur leur lieu de travail, hein, me semble assez intéressante. Il reconnaît ici, finalement, implicitement, que des questions d'inégalité vont reposer sur les effets de la mobilité quotidienne. Et non pas sur finalement l'accès à la mobilité quotidienne, mais bien sur les effets. Et c'est quelque chose qui va traverser notre propos. Donc plutôt que sur la mobilité elle-même. Mais pourtant, il va continuer à mettre l'accent sur les mobilités pour elles-mêmes. Quand il va déclarer, par exemple, nos concitoyens qui prennent la voiture tous les jours pour aller travailler, je comprends leur colère, ils me disent à juste titre, c'est la double peine, je suis courageux et on me pénalise. Voilà. Donc là, on voit bien que c'est une vision finalement individualisante qui est mise en avant. La situation finalement est abordée à partir de deux dimensions d'effort. Hein, celui du travail et celui d'être taxé à travers le fait d'être pénalisé. Pourtant, ce qui n'est pas dit, mais qui est pourtant là, c'est que ce raisonnement est aussi construit par rapport à ceux qui ne sont pas pénalisés, parce qu'ils prennent par exemple les transports en commun. Mais cela ne va pas pour autant jusqu'à avancer l'idée explicitement que les déplacements grignotent toujours plus les gains économiques accumulés par l'emploi quand on prend la voiture plutôt que quand on prend les transports en commun. Donc ce n'est pas sur cet aspect-là que les choses sont avancées. Ce n'est pas sur le rapport entre ce que fait l'un par rapport à l'autre, mais c'est bien d'individualiser la situation. Évidemment, cette question de différentiel de coûts entre la voiture et les TC, elle existait même avant cette crise et cette polémique, donc elle est d'autant moins mise en avant. Alors, il y a bien un flou, voire une confusion entre inégalité face au déplacement, je suis taxé par exemple, et inégalité face aux conséquences du déplacement. Mes déplacements réduisent plus fortement mes gains économiques. Ce qui n'est pas tout à fait le même raisonnement. Alors, ce flou est probablement un des éléments qui va empêcher le plus de regarder avec attention les liens entre transition écologique et rapports sociaux. Alors après cet élément d'actualité, cet exemple, je vais maintenant l'aborder à partir de recherches en sciences sociales, notamment sur deux plans, les recherches sur les mobilités quotidiennes et les mobilités géographiques en général, d'une part, et sur les recherches sur le processus de métropolisation. Parce que finalement, on trouve le même problème, notamment dans l'étude des déplacements, mais aussi dans celle des processus de métropolisation, mais je l'évoquerai dans un second temps. Donc on retrouve le même problème, et ceci dans les études sur les mobilités, et ceci même si la manière de concevoir les mobilités a fortement évolué au cours du temps, notamment en sciences sociales. Rapidement, jusque dans les années 70, milieu des années 70, les mobilités étaient perçues, conçues, comme des flux, essentiellement. C'était une étude de flux. Donc, c'est une approche complètement agrégée des déplacements. Donc, le mot-clé, c'est bien le flux. Et ici, l'idée, c'est de saisir le mouvement pour le faciliter. Quelle infrastructure avons-nous besoin? Pour comprendre l'infrastructure dont on a besoin, on va comprendre comment s'organisent les flux. À partir des années 70, milieu des années 70, et puis je le date à peu près jusqu'au milieu des années 90, c'est une autre manière de penser les déplacements, où le mot-clé, c'est le déplacement lui-même, hein, puisque ici, les mobilités sont envisagées comme des duels. Il y a une notion, non plus un, je dirais, téléologique du déplacement, c'est-à-dire. Les chercheurs commencent à penser le déplacement comme une demande dérivée de l'activité. Donc là, on a bien la notion de besoin qui apparaît très fortement dans les questions de mobilité et qui va rester. Hein. Ça ne veut pas dire aussi que dans cette phase-là, la notion de flux n'a pas son importance. Et enfin, à partir des années 90, on a une construction plus sociologisante ou plus sociologique. Des déplacements. Et c'est là que l'usage du terme mobilité va s'imposer finalement. Hein. Donc, contrairement à la première phase où on essayait de saisir le mouvement pour le faciliter, cette dernière phase, on va penser plutôt la facilité à se mouvoir. Donc, on est aussi à une échelle individuelle de compétences et aussi à l'échelle de la mobilité comme capital. C'est l'idée que la mobilité serait un capital. Alors, bien qu'on ait les moyens de penser les mobilités dans leur dimension sociale, on le voit à partir des années 90 et maintenant, l'essentiel des travaux porte toutefois sur les inégalités d'accès à la mobilité. Et ils restent pensés comme des besoins individuels. Ça, d'un côté, et d'un autre côté, les travaux s'adossent aussi sur le fait que la mobilité est un capital qui va permettre de s'en sortir socialement. C'est une idée très très forte, très 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 importante dans la manière de problématiser les mobilités à l'heure actuelle. Il y a encore peu de problématiques scientifiques qui portent sur des différences de bénéfices que les groupes sociaux retirent de leur mobilité. Par exemple, il y en a bien quelques-unes, hein, mais la question de suivre son entreprise pour effectuer de très longues distances ou de la double résidence pour conserver son emploi, on le sait, est nettement moins rémunérateur que d'accepter un travail dans la filiale de son entreprise qui est à l'autre bout du pays pour obtenir ensuite une promotion. On est dans deux manières de s'engager dans des mobilités. Hein. Et même si les modalités de ces, enfin, voilà. Excusez-moi. Du coup, les prérequis et les effets sociaux des mobilités géographiques sont souvent étudiés de manière déconnectée, notamment des pratiques dites écomobiles ou des pratiques dites de mobilité douce. Alors, on va regarder tout d'abord, l'accès aux mobilités, puis de l'autre côté, une évaluation des mobilités. Est-ce qu'elles sont durables? Est-ce qu'elles sont douces, etc. Mais sans forcément faire ces connexions. Ça ne veut pas dire que les mobilités ne sont pas qualifiées sociologiquement quand je les présente ici, mais ça veut dire qu'elles ne sont pas pensées dans les rapports sociaux. Et c'est ça qui me semble important à pointer du doigt. Par exemple, des travaux qui confirment que le 4x4, par exemple, qui est un véhicule énergivore, est plutôt acheté et utilisé par ceux qui ont les plus importantes ressources financières, bon, ça va plutôt de soi. En fait, on l'associe assez rarement avec d'autres raisons qui poussent à l'usage du 4x4, dont l'une est finalement de se protéger des autres sur la route. Donc on est bien là dans des rapports sociaux et qui ont des liens avec la question de la consommation d'énergie, par exemple. Alors, les travaux à l'échelle d'une métropole sont eux aussi rarement abordés sous l'angle des rapports sociaux. Il faut que j'aille un peu plus vite. Finalement, la raison en est assez simple. Je vous délivre la clé d'un coup. C'est que c'est surtout les processus de métropolisation sont surtout étudiés à partir d'un groupe social, ce que Florida a appelé les classes dites créatives, qui serait le moteur de la métropolisation. Et c'est d'autant plus intéressant de le regarder, puisque finalement, ici, bien qu'on utilise la notion de métropolisation pour dépasser cette opposition entre rural et urbain, cette notion de métropole et de métropolisation, elle est pensée très fortement avec la notion de mobilité. Il y a ces deux catégories géographiques que sont la métropole et les mobilités sont vraiment envisagées comme inséparables. Je ne vais pas donner les noms, je pense qu'il y a des noms qui vous viennent rapidement à l'esprit. Donc, en gros, chacun, mobilité et métropolisation, sont le produit de l'un et le produit de l'autre et vice-versa, et c'est des interactions continuelles. Alors, ça renvoie aussi à une hiérarchisation des phénomènes observés. Hein, on va regarder quels sont les individus qui sont le plus ou moins mobiles, ceux qui se déplacent le plus facilement ou le moins facilement, quels sont les centres ou les nœuds qui sont les plus centraux ou les moins centraux dans le maillage autour des échanges mondialisés. Donc voilà, on va essayer de classer un petit peu autant les individus que les espaces dans ce processus de métropolisation. Donc en fait, les mobilités et les individus ici sont évalués à la hauteur de leur capacité d'accéder à des ressources. Hein ? Et de la même manière, les centres urbains sont évalués à la hauteur de leur capacité à capter aussi des ressources, ici des ressources de circulation, en circulation, et notamment à capter de la main-d'œuvre. Pour aller un petit peu plus vite, il faut que je résume un peu. Mais l'idée, quand même, c'est que il y a beaucoup de directions autour de la notion de métropolisation, mais ce qui est important, et notamment dans cette notion de captation de la circulation des personnes, c'est surtout focalisé sur l'idée que les personnes actives dans le processus de métropolisation apportent une plus-value au processus de concentration des richesses et des pouvoirs, des processus qui sont au cœur de la métropolisation. Donc la focale est bien dirigée sur des personnes qualifiées, diplômées du secteur tertiaire. Les analyses centrées sur les ségrégations sociales arrivent dans un second temps, celles sur Donzelo notamment, mais finalement, progressivement, on a un travail qui porte plutôt sur la relégation hors de la métropole de ces populations les plus démunies et les plus fragiles. Alors, ce n'est pas faux, mais du coup, ça empêche, encore une fois, d'appréhender la complexité des rapports sociaux dans l'espace géographique à l'intérieur du territoire métropolitain. Alors pourquoi on va aborder ici la situation transfrontalière et la métropole luxembourgeoise? Parce qu'elle nous semble intéressante sur deux aspects pour essayer de voir cette importance des rapports sociaux et non pas juste des qualités sociales des personnes, hein, mais bien des rapports sociaux, c'est que, d'une part, bon, il y a un différentiel économique très fort de part et d'autre de la frontière, et surtout que ce différentiel, en fait, s'applique à toutes les professions. C'est pas simplement un différentiel comme dans certaines métropoles où vous allez avoir un différentiel très, très fort pour... voilà, pour rendre attractifs les classes créatives, ils seront très bien rémunérés, mais les populations ouvrières resteront rémunérées comme partout ailleurs, etc. Non, là, tout le monde est bien mieux payé. Donc, du coup, c'est ça qui est intéressant aussi. Il y a un avantage pour tous. Alors, et les distances de ces navettes quotidiennes, donc on va se focaliser sur la distance de ces navettes quotidiennes à partir des localisations résidentielles. Alors, tout simplement, là, je vais laisser la parole maintenant à Jeanne Yu pour qu'il vous expose plus concrètement cette importance des rapports sociaux dans le processus de métropolisation et aussi dans l'appréhension, finalement, de la transition écologique, hein, ce qui est de sous-jacente, par les navettes quotidiennes au sein des territoires métropolitains. On va partir de l'idée simple ici, hein, du principe que l'indicateur environnemental des navettes, c'est la distance géographique et le lieu de résidence des frontaliers.
Merci à Thierry pour cette introduction qui est très claire et bien placée dans par rapport à notre sujet de l'atelier aujourd'hui. Du coup, je m'appelle Jianyu Chen et je suis doctorant en psychologie sociale attaché à laboratoire SAGE et l'Université de Strasbourg et aussi en collaboration avec l'ISER au Luxembourg. Du coup, ça fait plaisir d'être là aujourd'hui à vous présenter un travail collectif que j'ai pu achever avec mes directeurs de thèse, Thierry Hamadier et Philippe Gerbert au LISER, qui ne peut être présent aujourd'hui. Et ce travail s'agit en particulier de méthodologies sur l'étude des mobilités transfrontalières sur notre terrain entre la région de Lorraine en France et le Luxembourg. En espérant que c'est notre recherche sur le terrain de Luxembourg pourrait éventuellement avoir des apports sur le sujet de la journée d'études et aussi sur les réflexions de l'étude du bassin métropolitain arc-jurassien. Mais également, on est prêt de échanger avec vous et aussi, on voudrait bien profiter certainement de ces échanges pour inspirer notre recherche plus tard. Du coup, face aux mobilités dans le contexte de la métropolisation, tel que Thierry a présenté, le processus de la métropolisation est avant tout un processus de concentration de la richesse, de l'emploi, du capital humain, mais aussi qui se complète avec une ségrégation sociale et résidentielle sur le bassin résidentiel qui se situe hors de la métropole. Dans notre cas, c'est la région Lorraine. Du coup, comme c'est un processus de métropolisation qui est avantageux pour tous, on pose la question, est-ce que les ouvriers ils sont autant absents, comme on le dit, dans la plupart des recherches sur le processus de la métropolisation? Est-ce que, dans quelle mesure, cette métropolisation transforme les répartitions des localisations résidentielles et aussi la structure sociale du peuplement? Mais on voudrait bien connaître le processus de cette reconfiguration à la fois sociale et spatiale, mais au prisme de la mobilité résidentielle du peuplement, qui n'est pas sans lien avec les caractéristiques sociales des personnes. Du coup, on a développé deux méthodologies. La première s'agit de la méthodologie à la fois sociale et temporelle, qui sert à répondre aux questions de l'effet de l'économie métropolitaine sur la reconfiguration du bassin résidentiel. Et la deuxième s'agit d'une méthodologie spatiale et temporelle qui permet de connaître le processus de cette reconfiguration. Les ressources de données que nous avons utilisées, c'est le recensement de population française produit par l'INSEE sur cette année. Et l'échelle géographique de ces jeux de données, c'est à l'échelle communale, sur une sélection des variables, je dirais, sociodémographiques classiques. Par exemple, le lieu de résidence et le pays, surtout le pays de travail, nous permet de cibler notre population, notre échantillon, que, par exemple, les frontaliers qui habitent dans la région de Lorraine et qui travaillent au Luxembourg, mais aussi l'âge, le genre, le diplôme, la profession, qui nous permet d'étudier dans un second temps leurs caractéristiques socio-démographiques. Du coup, à partir des analyses quantitatives préalables, on a pu discerner notre étude terrain, qui est trois départements entre parmi les quatre de la région Lorraine. Ça, c'est la Meuse, la Meurthe-et-Moselle et la Moselle. Du coup, ces trois départements représentent plus de 97% du total des frontaliers entre toute la période, mais aussi entre 1982 jusqu'à nos jours, à 2013. Je vous explique dans un second temps pourquoi on divise cette période en telle qu'elle. Comme Thierry a présenté, que le Luxembourg a connu une métropolisation à la fin des années 1980, mais cette métropolisation n'est pas continue. Avant les années 80, c'est une période plutôt pré-métropolisation, que l'économie régionale s'est basée sur l'industrie sidérurgique. Par exemple, Longwy et Thionville, c'est deux communes qui font partie de la complexe sidérurgique à l'époque. Et dans un second temps, à partir de la fin des années 90 jusqu'à la fin des années 90, c'est le Luxembourg a connu une reconversion économique à partir de l'économie de l'industrie sidérurgique vers la place financière. Du coup, c'est là où on commence un recrutement métropolitain que beaucoup de frontaliers, beaucoup de Français ou beaucoup de résidents qui habitent en France commencent à travailler au Luxembourg. Jusqu'à une période récente, à partir des années 90 jusqu'à nos jours, c'est une croissance relativisée qu'on a pu constater un plateau de la croissance. Et cette CAF nous montre un peu l'évolution pendant toute la période, la croissance des frontaliers en rouge, la courbe en rouge, c'est le frontalier français qui travaille au Luxembourg. On a pu constater qu'à partir des années, à la fin des années 80 et au début des années 90, on a eu une croissance très importante et entre 2008 et 2013, du coup, la croissance se stabilise un peu. La première méthode, c'est la méthode socio-spatiale. Et pour cette méthode, on a posé l'hypothèse que la partie qui est tout à fait liée à la question au départ, c'est que la participation des ouvriers est aussi importante que les autres professions à la métropolisation, malgré la diminution en proportion des ouvriers. C'est sûr parce que, comme on disait, que la métropolisation, c'est surtout une concentration de richesses, de l'emploi plus qualifié. Mais le nombre